Bonjour. Je vous remercie pour les personnes qui ont prié pour nous pendant notre séjour à Paris. Barbara a réussi d'avoir le visa aux États-Unis, donc merci Seigneur. On a passé 3 jours. On a vu le médecin avant, le rendez-vous chez l'ambassade des États-Unis jeudi. On est rentré vendredi, un peu fatigué, mais on a bien profité, on a mangé. Dans le quartier juif, où on aime bien manger là-bas, le falafel et tout. Merci Seigneur pour le visa, merci pour vos prières. Prions ensemble. Seigneur l'Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour la grâce que nous avons d'ouvrir ta parole, d'être enseigné par ton Saint-Esprit, d'être convaincu de besoin de changer, être transformé, d'être plus conforme à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi de bien communiquer et aide chacun ici de recevoir une bénédiction de ta parole, afin que nous puissions tous avancer par la foi, marcher par la foi digne de toi. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas trop fort? C'est bon? Ça va? Bon, il y a 2 semaines, Michel a prêché sur les priorités relationnelles de notre vie, n'est-ce pas? Dieu veut occuper la première place dans notre vie. Après, il y a la priorité donnée à mon épouse, puis à mes enfants. Après, viennent l'Église et mes voisins. Est-ce que Dieu a la première place dans votre vie, dans votre cœur? C'est ça la question que Michel nous a posée, n'est-ce pas, il y a 2 semaines. Est-ce que Dieu a la première place au travail, à l'école, à la maison, sur la route? Et quand vous êtes tout seul, c'est là peut-être ça compte le plus. Est-ce que c'est évident pour les autres autour de vous? Est-ce qu'ils le voient? Il y a 1 semaine, Michel a souligné la priorité de prière, de prier, oui. Vous avez écouté, vous avez retenu quelque chose, c'est bien. Il sera content, Michel. Et c'était de prier en tout le temps, pour tous les saints, avec persévérance, n'est-ce pas? Il nous a rappelé que nous sommes dans un combat spirituel contre notre ennemi, le diable. Il nous a montré la priorité des apôtres et de Jésus-Christ même, de mettre la prière comme une priorité dans leur vie et dans notre vie. Depuis ce rappel, est-ce que vous vous êtes repentis de votre manque de prière? Moi, oui. Est-ce que votre vie et votre façon de prier ont changé? Moi, oui, depuis 1 semaine. C'est ça le but. Je ne suis pas là pour prêcher, pour vous écouter, et on ne fait rien du tout après. Dieu veut qu'on mette en pratique notre parole. Sinon, on peut partir, on peut manger ensemble et c'est fini. On n'a pas besoin de venir ici, chanter, célébrer, tout ça, n'est-ce pas? Dieu veut nous transformer, nous changer. On ne sera pas la même personne la semaine prochaine qu'aujourd'hui. Si Dieu a la première place dans ma vie, et si je prie avec persévérance, je dois connaître celui qui est le Dieu qui je mets en premier et auquel je m'adresse, n'est-ce pas? Pas facile. Oui, vous allez dire, Franck, tout de suite, que vous connaissez Dieu. Je suis d'accord avec vous, si quelqu'un connaît Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, personnel de sa vie, il connaît Dieu, le Père, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit. On va regarder Jean chapitre 14 ensemble. Il y a plusieurs versets, on va regarder. Mais le vrai sujet de mon message, c'est l'attribut de Dieu, sa bonté. Mais juste en regardant Jean chapitre 14, on est en train d'étudier Jean 14 dans les groupes de maison. Jean 14, verset 15. Regardez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père. Voilà, Jésus qui prie. Qu'est-ce qu'il prie? Et il vous donnera un autre consolateur. Voilà, on regarde Jésus, le Père, et l'autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Ça, c'est vraiment un mystère. Mais c'est merveilleux. La connaissance, c'est personnel, c'est intime, et c'est vraiment un mystère. Nous sommes en Christ, en Dieu, et Dieu en nous. Verset 21, « Celui qui a mes commandements, c'est nous, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jésus qui fait connaître à Dieu son Père de nous. C'est merveilleux cela. C'est comme il va introduire Franck, je présente mon Père. C'est pas merveilleux ça? Le Père qui dit, je présente mon Fils. Je présente l'Esprit Saint. Et je connais tous les trois et vous connaissez le seul Dieu, le seul vrai Dieu. L'apôtre Paul a dit comme but de sa vie, et j'espère que nous avons le même but, en même et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous pouvez le dire ce matin? J'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens 3, verset 8. Juste le verset après, Paul a dit, je suis trouvé en lui, en Christ. C'est ce qu'on a lu, Jean chapitre 14. Paul a compris qu'il est en lui. Et regarde verset 12, je vais juste dire que Paul a dit, j'étais saisi par Jésus-Christ. C'est pas merveilleux cela? Paul était saisi par Jésus-Christ. Et nous aussi, si nous sommes en Christ. Paul ne cherche pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance personnelle par l'expérience dans l'amour et l'obéissance. Paul dit juste après, le verset après, Philippiens 3, verset 10 à 11, « Ainsi je connaîtrai Christ. » Et quoi? « Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Bon, souffrance, on aime bien la puissance, mais souffrance, bon, j'espère pas. Mais Paul, il cherche de connaître vraiment le cœur de Dieu. Et ça, si on veut la puissance de la résurrection, on a besoin de la souffrance, des souffrances aussi, de Jésus-Christ, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul était passionné de connaître vraiment qui est Dieu. Qui est Dieu dans ma vie? Oui, il faut mettre Dieu en premier. Oui, il faut prier. Mais si nous n'avons pas le désir au fond de nous-mêmes de mieux connaître Jésus-Christ, nous n'allons jamais comprendre ni expérimenter sa puissance, ses souffrances, et nous allons rater le but de tout ce que Dieu permet dans notre vie pour être conforme à lui. Vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes trop occupés. Nous avons trop de distractions et pas assez de temps pour lire et méditer sur la personne de Dieu. Je n'ai pas dit les choses de Dieu, parce que c'est très général, mais la personne de Dieu. Qui est ton Dieu? Donc, notre connaissance reste superficielle, et si c'est le cas, souvent notre raisonnement est erroné. Et le pire, c'est que tu es quelqu'un d'ignorant et de mal affermi qui tord le sens des Écritures pour ta propre ruine, Pierre a dit, 2 Pierre 3, verset 16. Le psalmiste a dit, « L'Éternel a fait des reproches au peuple d'Israël en disant, « Voilà, psaume 50, verset 21, « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. » C'est ça souvent notre problème. « Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre, Dieu a dit, et te mettre sous tes yeux. » Notre problème, c'est que on voit un Dieu tout petit. On a Dieu dans notre image, pas son image. Il n'est pas tellement merveilleux, pas tellement grand, pas tellement bon. Est-ce que tu veux garder une connaissance superficielle sur Dieu et comme ça tu vis une vie superficielle avec Dieu? Ou est-ce que tu veux pleurer et te repentir de ton laxisme et de tes occupations afin de partir ou repartir à la recherche de Dieu, sachant comment cela peut changer ta vie? Il y a plusieurs attributs de Dieu bien expliqués dans ta Bible pour mieux comprendre qui est ton Dieu. Il y a des attributs que nous ne partageons pas, c'est-à-dire de son auto-existence, transcendance, omniscience, omniprésence, omnipotence, souveraineté, immuabilité, éternité, infini, immensité et sa perfection. Ça, on ne partage pas. Mais il y a d'autres attributs que Dieu a partagés avec l'homme parce qu'il nous a créés à son image. Parole, il nous donne la parole, sa connaissance, sainteté, fidélité, bonté, patience, grâce, miséricorde, amour, colère, sagesse et justice. Et peut-être il y a d'autres. Et ce matin, j'aimerais passer quelques minutes en regardant l'attribut suivant de Dieu, la bonté, sa bonté. Je suis en train de lire pour mes cours de master en relations d'aide, deux volumes de Tozer. Quelqu'un a lu Tozer un peu? Tozer, les attributs de Dieu. Et ça m'a beaucoup touché quand il a prêché, en fait. En fait, ses livres sont des messages qu'il a prêchés. J'étais beaucoup touché par la bonté de Dieu. C'est évident que notre Créateur est éternel. Il existe depuis toujours. Il existe en trois personnes, il est infini aussi, il n'a pas de limite, il est immense. On ne peut pas mesurer Dieu. Il est tout puissant. Il a créé l'univers à partir de rien avec sa parole. Il a créé l'homme et la femme à son image. Bien sûr, Dieu n'est pas comme nous. Dieu est un, indivisible, et tous ses attributs viennent de lui. Dieu n'est pas composé ni fait. Nous sommes corps, âme, esprit. Dieu nous a fait, et pour nous, c'est difficile de maintenir l'équilibre entre la justice et la miséricorde, entre l'amour et la haine, entre la patience et l'impatience. C'est difficile pour nous de garder l'harmonie en nous. Mais avec Dieu, tous ces attributs sont toujours en harmonie. On ne peut même pas, c'est difficile pour nous de comprendre cela. Il n'y a jamais de lutte à l'intérieur de Dieu. C'est souvent lutte à l'intérieur de nous. Mais jamais avec Dieu. Peut-être tu vas me dire, pourquoi prêcher sur la bonté de Dieu? Je sais que Dieu est bon et c'est bon pour moi. Mais je vois souvent que les chrétiens ne vivent pas et qu'ils ne réalisent pas combien Dieu est bon. Moi en premier. On va regarder tout d'abord la bonté de Dieu et ensuite comment sa bonté doit changer notre façon de penser et de vivre. Oui, Dieu est bon. La bonté est un attribut de Dieu. Il est bon depuis toujours et au fond de lui-même. Tout ce que Dieu a créé est seulement bon du fait de la participation et la communication de Dieu. Il était bon, il est bon, il sera bon pour toujours. Tout ce qui vient de Dieu, sa parole, sa création, ses lois, sa providence, ne peut être que bon. Luc 18, vous pouvez chercher Luc 18. Il y avait un jeune homme, en fait, Luc dit chef religieux. Il était un chef, mais aussi Matthieu a dit un jeune homme. Luc 18, 18. Ça, s'il a trouvé, Luc 18, 18. Regardez la question, il pose à Jésus. Et regarde la réponse de Jésus. C'est juste un rappel. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Bonne question. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ce n'était pas la réponse que je vais donner, peut-être vous non plus, mais regarde la réponse de Jésus. Jésus n'est pas en train de nier sa divinité, mais d'enseigner que tous sont pécheurs, mis à part Dieu. Cet homme avait le défaut spirituel le plus grave, qui était son refus de confesser sa propre corruption spirituelle. Le problème le plus grave en nous, c'est de penser que nous sommes bons en nous-mêmes. Et que nous n'avons pas besoin de la bonté de Dieu pour nous sauver et nous transformer. Jésus a bien montré combien il était vain de chercher à mériter le salut. Le psalmiste a bien dit que toute l'humanité, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, et aucun qui fasse le bien. Ça c'est vous, ça c'est moi. On ne peut pas dire oui, je fais le bien. Ça vient de moi, je suis bon. Non. Sinon, vous êtes menteur. C.S. Lewis a écrit dans son livre, qui est devenu un film, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Je ne sais pas qui a dit cela, je pense que c'était le jeune homme. Il n'est pas un lion apprivoisé, mais il est bon. Oui, Dieu est comme un lion apprivoisé. Et heureusement pour nous qui connaissons le lion, il est bon. La Bible dit aussi que notre Dieu est un feu dévorant. Vous connaissez ce Dieu? Un Dieu dévorant. Ah oui, Dieu est bon, mais un feu dévorant. Moi, je ne connais pas ce Dieu. Oui, votre Dieu est un Dieu, un feu dévorant. Ésaïe a écrit, « Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?» C'est pas, il ne parle pas de l'enfer, il parle de Dieu. Ésaïe 33, verset 14. C'est seulement par la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu que nous ne sommes pas dévorés par la sainteté de Dieu. On va regarder un peu Genèse, chapitre 1, Genèse chapitre 1 jusqu'à chapitre 3. Sur les trois premiers chapitres de la Bible, la bonté de Dieu est premièrement vue dans sa création. Plusieurs fois, Dieu a terminé sa création avec une affirmation que c'était bon. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et il dit sépara la lumière avec les ténèbres. Verset 10, Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est pour moi, c'est comme Dieu chante chaque fois. On peut le lire, mais pour moi, c'est comme Dieu le chante. Tout est bon. Ça vient de moi. C'est merveilleux. Verset 18, verset 25, il dit la même chose. Dieu vit que cela était bon. Et verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Waouh! Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le sixième jour, juste après avoir créé l'homme et la femme. Chapitre 2, verset 18, Dieu dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. L'Éternel dit, chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Heureusement, il a dit ça. « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Merci Seigneur pour l'aide qu'il m'a donnée. Jusqu'à chapitre 3, tout va bien. Tout ce que Dieu a créé sont bons parce que Dieu est bon. La création et l'homme trouvent leur propre bonté en Dieu. La bonté de Dieu est évidente quand on commence à regarder les plaisirs de notre vie, les couleurs, les saveurs, les odeurs, la richesse et la diversité des animaux, la beauté de cette planète. On peut continuer des heures et des heures et des heures à rencontrer la bonté de Dieu, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Il n'avait pas besoin. Imaginez un monde noir et blanc. Imaginez, vous cuisinez, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Bizarre, hein? Imaginez, vous mangez quelque chose, c'est comme vous mangez du carton. Il n'y a pas de saveur. Imaginez. Difficile. Difficile? Oui ou non? Oui. Oui, c'est difficile. impossible même. Parce que Dieu est bon. Dieu non plus ne peut pas imaginer un monde comme ça. Dieu ne peut pas imaginer un monde sans des milliers d'étoiles. Quand, chaque soir, je peux regarder des milliers d'étoiles. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous de regarder combien Dieu est bon, combien il est merveilleux, combien il y a une créature si merveilleuse qui a créé tout ça. C'est pourquoi le psalmiste a écrit et chanté « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » On peut le dire tous les jours, tout le temps, n'est-ce pas? Il a dit aussi « Oh, combien est grande ta bonté !» Il a chanté « Combien est grande ta bonté !» Le psalmiste a dit « La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Il a dit aussi « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. » Il n'y a pas de limite, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Donc avec sa bonté, il n'y a pas de limite. Et il a dit aussi, il a chanté « Ta bonté vaut mieux que la vie. » On chante souvent, n'est-ce pas? « Ta bonté vaut mieux que la vie. » Est-ce que c'est la vérité pour vous ce matin? Mais la vie pour moi, c'est autre chose. Moi, j'ai des choses à faire. Moi, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. La bonté vaut mieux que la vie. Le psalmiste a dit, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté de l'Éternel dure toujours. Nous allons passer l'éternité ensemble dans la présence d'un feu dévorant qui est bon, d'un lion qui est bon. C'est merveilleux. Genèse 3, il y a un petit problème. C'est vraiment dommage. Mais on voit à partir de verset 1, le serpent. Le serpent. Tout de suite, il y a quelqu'un. Était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ah, il a fait le serpent aussi. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Genèse 3, verset 1. Vous êtes là? La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Satan a tenté Ève sur la bonté de Dieu. Dieu n'est pas bon, Ève. Dieu n'est pas bon. Il garde quelque chose qu'il ne veut pas vous donner. Il met en doute d'abord la parole de Dieu, verset 1. Dieu a vraiment dit quelque chose. Il a exagéré. Il a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu a dit ça, Ève. Et il met en question la bonté de Dieu. Versets 4 et 5. N'oublie pas que Adam et Ève sont dans le jardin et ils n'ont vécu que de la manifestation de la bonté de Dieu. Tout ce qu'ils ont vu, c'est bon. Ils vivent dans un jardin qui est bon. Ils vivent avec Dieu qui est bon. Tout est bon. la tentation arrive et ils sont tentés de penser que la parole de Dieu n'est pas la vérité et que Dieu n'est pas vraiment bon parce qu'il a gardé quelque chose. La tentation est pareille aujourd'hui pour vous, pour moi. Je peux trouver la satisfaction en autre chose que la volonté de Dieu et ma relation avec mon Dieu qui est bon. Donc, je prends le contrôle de ma vie, je décide, je trouve ma satisfaction en autre chose que Dieu. Dieu, il garde quelque chose pour lui, je veux autre chose que Dieu. Chaque fois que je pêche, je dis, Dieu, tu n'es pas bon. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. C'est exactement ce que Ève et Adam, ils ont dit, ils ont fait. Je ne suis pas content. Je veux autre chose. Imagine, Dieu qui est bon, parfaitement bon, éternellement bon. Il nous a créés. Tout est bon. Et on dit, je ne suis pas satisfait avec toi. Je veux autre chose. Donc chaque fois que vous péchez, chaque fois que je pêche, je dis à Dieu, je ne suis pas content. Je ne suis pas satisfait. Je cherche autre chose. La bonté de Dieu est aussi vue en retenant sa colère après que l'homme a péché contre lui. La bonté de Dieu exige que Dieu ne puisse pas aimer le péché. La bonté de Dieu est la seule raison valable pour notre existence aujourd'hui. C'est la seule raison qui sous-tend toute chose. Dieu, dans sa bonté, nous a créés et nous ne le méritions pas. Nous n'avons pas été détruits quand nous avons péché. Pour la première fois. Car sa bonté nous a sauvés. Dieu répond aux prières parce qu'il est bon. Le Dieu de miséricorde pardonne généreusement à ceux qui viendraient en fonction des conditions fixées par Dieu. La grâce et la miséricorde viennent de la bonté de Dieu. C'est difficile à s'exprimer ça, mais parce que Dieu est bon, il est plein de grâce, il est plein de miséricorde. Tout est en harmonie avec Dieu. La grâce de Dieu voit l'homme dans son démérite et il donne même si l'homme ne mérite rien. L'homme n'est pas seulement sans mérite, mais il est dans une situation où il mérite la justice, le jugement de Dieu et le châtiment de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes à zéro. On est à moins. Des mérites. La miséricorde de Dieu voit l'homme misérable et ne donne pas ce que l'homme mérite. En lisant Actes chapitre 14, versets 16 à 17, on voit que Dieu est bon vers tout le monde, même envers les non-croyants. Et vous pouvez le dire, que mon Dieu est bon, il est bon vers vous aussi. Actes chapitre 14, versets 16 et 17, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Il donne l'homme la liberté. » C'est la bonté de Dieu. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. Donc Dieu est bon. Il est bon vers tout le monde. Dieu était bon quand il a jugé Adam, Ève et Satan. La bonté de Dieu ne peut pas être remise en question parce qu'il y a la souffrance et la tristesse dans le monde. Dieu sera-t-il bon si il ne punissait pas les injustes et ne débarrassait pas la terre de ceux qui ont brisé ses lois, ont défié son autorité, méprisé son fils et persécuté ceux pour lesquels il est mort? La bonté de Dieu a paru le plus clairement quand il a envoyé son fils. La Bible dit en Tite 2, verset 11, « La grâce ou la bonté de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes en Jésus-Christ. » Jean, chapitre 1, verset 16, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Donc la grâce vient de la bonté de Dieu. « Car la loi a été donné par Moïse, et la grâce ou la bonté et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jésus veut que nous prenions, écoutez-moi bien, Jésus veut que nous prenions plaisir en lui et en lui seul. Il veut vous satisfaire pleinement quand vous êtes son enfant et quand vous êtes soumis à sa volonté. Lorsque vous êtes satisfait en lui, il est heureux. Jésus a dit, venez à moi, n'est-ce pas? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai moi-même. Vous trouvez en moi tout ce qu'il faut. C'est en Christ que nous avons la possibilité d'expérimenter la bonté de Dieu comme un enfant de Dieu. Donc c'est comme le monde, ils ont expérimenté la bonté, mais nous encore, c'est une autre façon de comprendre et d'expérimenter par connaissance de Dieu la bonté de Dieu. C'est une autre manifestation de sa bonté. Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Quel Dieu tellement bon envers nous, on ne mérite pas sa bonté. Quels doivent être les résultats de la bonté de Dieu dans ma vie, dans ta vie? Déjà, bon, j'ai souligné trois choses, peut-être il y a d'autres, mais j'ai souligné trois choses. Comment les résultats de la bonté doivent changer ma vie? Si je médite sur la bonté de Dieu, quelle est la première réponse? Pour moi, c'est la repentance. C'est toujours la repentance. On ne parle pas souvent de la repentance dans notre vie, mais c'est très important. Est-ce que vous avez cherché votre propre bonheur, votre propre satisfaction en autre chose que Dieu? Oui. Est-ce que vous avez pensé que Dieu, parce qu'il est bon, justement, va vous accepter dans sa présence parce qu'il y a quelque chose de bon en vous? Moi, je parle avec des gens. Souvent, ils disent, bon, Dieu est bon. Il va m'accepter. Je n'ai pas tué quelqu'un. Bon, Dieu va m'accepter, non? Dieu est bon. Il est plein d'amour. Mais je suis désolé. Ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu est bon. Mais il ne va pas t'accepter comme ça. Il faut repentir de votre péché contre lui. Parce que vous avez trouvé la satisfaction en vous-même. Vous vivez pour vous-même, pas pour lui. Romains 2, verset 4. « Où méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu ? De sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Regardez rapidement avec moi Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, toi et moi, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Point, point, point dans ma Bible. Mais regardez, mes dieux. Verset 4. Mes dieux, heureusement. Dieu qui est riche en miséricorde, ça vient de sa bonté. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. En Jésus-Christ. C'est merveilleux. On peut méditer sur ce passage cet après-midi, n'est-ce pas? En racontant combien nous sommes reconnaissants pour la bonté de Dieu. Jacques a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Encore la bonté de Dieu. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Paul a écrit en Romains, « Considère donc la bonté, le même verset, la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. » Romains 11, verset 22. Encore une fois, tous les attributs de Dieu œuvrent en harmonie. La bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Donc, premièrement, la repentance. Deuxièmement, la reconnaissance. Tous les jours de notre existence, nous devons être reconnaissants par la bonté de Dieu. Même pendant la souffrance, même pendant les épreuves, la guerre. Est-ce que Dieu reste bon? Oui, il est toujours bon. Dieu ne change jamais. La reconnaissance est ce qui retourne à Dieu de notre part, nous qui sommes les objets de ses bienfaits. Et pourtant, nous ne sommes souvent pas reconnaissants. Tout simplement parce que sa bonté est si constante et si abondante. C'est plus facile à se plaindre, n'est-ce pas? Plus facile à râler. Est-ce que vous râlez plus souvent ou est-ce que vous dire oui, Dieu est bon? Vous avez des problèmes, la situation, il y a quelqu'un qui te gêne, il y a quelqu'un qui t'énerve. Est-ce que Dieu est bon? Il y a des souffrances, il y a des soucis. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que tu peux dire oui, Dieu est bon? C'est bien de l'exprimer. Quand il y a une situation, un problème, c'est bien de dire Dieu est bon. Je suis fatigué, Dieu est bon. J'ai un souci, Dieu est bon. J'ai un problème, Dieu est bon. N'est-ce pas? Ça change la perspective, ça change ton attitude, n'est-ce pas? Et ça rend gloire à Dieu qui est bon. Et tu résistes la tentation de chercher la satisfaction en toi-même. Je prends le contrôle de ma situation maintenant je prends mes soucis sur mes épaules, je garde ça pour moi et je me plains au lieu de dire Dieu est bon, je donne à Dieu. Le psalmiste 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » C'est ça que Dieu veut en nous, cette attitude de reconnaissance. Donc, repentance, reconnaissance, et troisième, la satisfaction totale. Prenez plaisir en Dieu. Le Créateur veut votre bonheur. Qui se trouve? Où ça se trouve? Ça se trouve où? En lui. Ça se trouve en lui. Le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. C.S. Lewis savait que le Seigneur ne trouvait pas nos désirs trop ambitieux, mais trop modestes. Nos désirs ne sont pas trop ambitieux, ils sont trop modestes. La tradition ancienne déclare, « Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de faire sans cesse sa joie en lui. » Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de faire sans cesse sa joie de lui. Les théologiens qui ont élaboré cette formule ne pensaient pas un seul instant qu'ils parlaient de deux choses différentes. La meilleure façon de glorifier Dieu est de faire sans cesse ta joie de Dieu qui est bon. La meilleure façon de glorifier Dieu est de faire sans cesse ta joie de Dieu qui est bon. Paul a écrit que Dieu permet toutes les circonstances dans notre vie et nous avons l'assurance que Dieu utilise toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Car ceux qui ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Le but précis de Dieu, c'est que chacun qui le connaît ressemble à son Fils. C'est le projet éternel de Dieu pour les siens. Donc, chaque chose qu'il permet dans votre vie, dans ma vie, est pour votre bien, pour ma bien, et sa gloire parce qu'il est bon. Donc, chaque fois, je suis devant une situation, tenté de dire Dieu n'est pas bon. Je dis oui, Dieu est bon. Il y a la reconnaissance et je veux me satisfaire en Dieu parce qu'il est bon. Vivant la bonté de Dieu. Amen. Vous pouvez dire ce matin que Dieu est bon? Amen.